Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tompté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour le débat BBC Afrique, Africa Radio. Ma chère Liliane, bonjour à vous.
Bonjour Saint-Ish, bonjour à tous. Et nous allons commencer avec la Côte d'Ivoire. Après des semaines de négociations rythmées par quelques phases de tension entre gouvernement et mandataire de Laurent Gbagbo, ça y est, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien est annoncé pour le 17 juin prochain. Il rentre dans son pays après 10 ans passés en détention dans le cadre de la crise post-électorale.
Alors que son parti, le FPI, travaille à un retour dans la liesse populaire, le RHDP au pouvoir verrait plutôt une arrivée sans fanfare. Certaines victimes de la crise post-électorale de leur côté aussi donnent de la voix réclamant l'incarcération de l'ancien chef de l'État dès son arrivée à Abidjan, Liliane.
Plusieurs organisations ont décidé de suspendre le Mali en réponse au coup d'État du 24 mai dernier. Comment le nouveau chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, va-t-il manœuvrer pour sortir le Mali au plus vite de l'isolement?
Le Mali qui va devoir également faire face à la suspension temporaire de la participation française aux opérations militaires conjointes avec Bamako. À cette pression extérieure s'ajoute celle engendrée par la nomination d'un Premier ministre et la configuration très attendue du prochain gouvernement.
Dernier sujet, attaque planifiée ou malheureux incident. Il y a eu une poussée de fièvre diplomatique cette semaine entre N'Djamena et Bangui après la mort de 6 soldats tchadiens lors d'accrochages entre les armées des deux pays à leurs frontières. Cet incident risque-t-il durablement d'affecter les relations entre les deux pays voisins ?
N'Djamena et Bangui ont convenu de la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les faits, en attendant chacun à renforcer la sécurité à ses frontières. Si la diplomatie semble avoir pris le dessus pour le moment, la tension n'est pas pour autant retombée, Liliane.
Et nous allons à présent, Saint-Ish, parler de notre plateau. Notre grand témoin cette semaine est Justin Koné-Katinan. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes porte-parole de Laurent Gbagbo et président de la commission communication dans l'organisation du retour de l'ancien président ivoirien en Côte d'Ivoire. Vous êtes juriste de formation, spécialiste des questions fiscales, du cadastre et du foncier, administrateur des services financiers. Vous avez été ministre délégué du budget. Vous êtes vice-président du FPI chargé des questions économiques et financières. Vous êtes également, monsieur Katinan, premier vice-président de la plateforme politique de l'opposition EDS, c'est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, auteur de 2 essais dont Économie et développement en Afrique, la contradiction principale. 2 journalistes nous accompagnent cette semaine. Il s'agit de Ladjim Narcisse Bainadji, journaliste à Electron TV à N'Djamena au Tchad. Bonjour Narcisse.
Bonjour,
Virginia. Et en ligne de Bamako, au Mali, Sidi Dao, rédacteur en chef du site jalon.com. Bonjour, Sidi.
Bonjour, madame.
Voilà pour le plateau, Saint-Ish, notre premier sujet avec vous.
Les partisans de Laurent Gbagbo dans l'attente du 17 juin 2021, date annoncée du retour de l'ancien chef de l'État en Côte d'Ivoire, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale dans le procès de crimes contre l'humanité, son retour était une possibilité de plus en plus évidente. Puis, la déclaration du président Alassane Ouattara, indiquant que Laurent Gbagbo pouvait rentrer quand il le souhaitait, est venue renforcer l'évidence. Depuis, les tractations et négociations ont été menées et se mènent encore entre les autorités et son parti, le Front populaire ivoirien. Mais quelle forme doit prendre ce retour ? Le FPI ne voit qu'une arrivée en triomphe, alors que Adama Bitto, le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, a déclaré en semaine qu'il aurait fallu un retour discret de Laurent Gbagbo de peur d'un éventuel débordement. Le gouvernement a tenté d'étouffer la polémique qui enflait et le ministre de la Réconciliation nationale, Konan Kwadio-Bertin, est allé demander au RHDP de s'aligner sur la position du président Alassane Ouattara. Monsieur Justin Koné-Katinan, la polémique est-elle close à l'heure où nous faisons cette émission? Et sait-on aujourd'hui comment le président Gbagbo sera accueilli à Abidjan le 17 juin?
Bon, alors je voudrais faire rapidement un petit rappel pour dire que dans le cadre du retour du président Laurent Gbagbo, notre partenaire c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, nous ne sommes pas en opposition, nous sommes des partenaires. Le chef de l'État en conseil des ministres, qui est un cadre solennel du 7 avril 2021, a clairement établi que ce qui relève d'une évidence, Parce qu'il faudra bien que nous comprenions que le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne relève pas d'une libéralité. Ce n'est pas c'est pas du tout, ça ne relève pas de la libéralité, ce n'est pas des privilèges exceptionnels. Cela relève d'une obligation légale qui a été rappelée par le juge au moment où il vidait son délibéré le 31 mars en appel, en disant ceci. Les conditions imposées au président Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé étaient liées à l'appel. Pas tout le moment où l'appel a été rejeté, donc ces conditions n'ont plus besoin d'être.
Alors, M. Katina, je vais peut-être reposer la question de façon plus claire, hein, pour qu'on essaye de comprendre. Il y a un comité d'organisation qui a été mis en place. Retour de Laurent Gbagbo est-il organisé par un comité d'organisation ou est-ce c'est l'État ivoirien qui est en première ligne dans l'organisation du retour de M. Laurent Gbagbo en tant qu'ancien chef de l'État?
Non. C'est un comité d'organisation. Nous avons mis en place un comité d'organisation. Et ça me paraissait essentiel. Mais nous sommes en partenariat avec l'État parce qu'il y a des questions qui relèvent évidemment de l'État. Notamment les questions sécuritaires, elles relèvent de l'État. Nous n'avons pas une armée privée, nous n'avons pas de police privée. Et cela relève donc des compétences régaliennes de l'État. Et donc, nous parlons de partenariat. Mais pour la mobilisation, ce n'est pas l'État qui va mobiliser les Ivoiriens, ce n'est pas l'État qui va informer les Ivoiriens, c'est en ce qui concerne l'aspect politique et que nous souhaitons, que nous gérons, et ça relève du comité d'organisation qui a été mis en place et qui est composé de diverses personnes venant d'horizons, de diverses personnes qui viennent de tous les horizons. Et quand il dit tous les horizons, c'est politique et des horizons religieux, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je parle de partenariat.
Alors, certains analystes estiment qu'en tant qu'ancien président, votre parti aurait gagné à se mettre un peu en retrait et à laisser l'État organiser son retour. Qu'est-ce que vous répondez?
Je pense qu'il faut faire très attention dans ce genre de situation. Le président Laurent Gbagbo était à la CPI, devant la CPI. Il avait été quand même envoyé par l'État ivoirien là-bas. Tout ce que le chef de l'État devait pouvoir faire, c'est ce qu'il a fait. Il met les moyens, il a dit nous prenons en charge. Si cela était nécessaire, nous prenons en charge, l'État prend en charge. Mais ce n'est pas l'État qui va organiser, qui va mobiliser, qui va ainsi de suite. Non, je ne crois pas qu'il faille donner un caractère au-delà de ce qui ne l'est pas. Je pense que les choses sont claires. Si nous sommes en partenariat, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Nous avions, il est quand même le premier responsable politique d'une famille politique est énorme, qui est importante. Et cette famille ne peut pas rester les bras croisés et dire nous laissons l'État faire. C'est pourquoi nous parlons de partenariat et non pas d'opposition. Et je pense que cela est important. Parce qu'il est important de toute façon. Le retour du président Laurent Gbagbo, c'est une affaire volontaire. C'est lui, la date, c'est lui qui la donne. Il la donne à son parti politique, informe les autorités, ainsi de suite. Je pense que sur ce point-là, nous n'avons pas besoin de rester faire l'État, laisser faire ce que l'État devait faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est le partenariat entre l'État et la famille politique du président Laurent Gbagbo.
Monsieur Kone Katinan, vous répétez que vous n'êtes pas en opposition avec l'État, vous êtes en partenariat. Mais dans la réponse que vous avez donnée à ma collègue consoeur Saint-Tige, vous n'avez pas clairement répondu à la question de savoir sous quel format va rentrer Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y aura une fête populaire ou ce sera de façon discrète comme le souhaitent les autorités? Est-ce que vous pouvez nous dire clairement comment cela va se passer?
Il y a des événements qui, par leur nature, ne peuvent pas être discrets. Je pense que cela relève de l'évidence. Vous-même, s'il s'agissait du voyage de Kone Katina qui devenait en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas organiser, mobiliser une chaîne importante comme la vôtre pour parler de cela.
Donc, il y aura une fête populaire, quelle qu'en soit la position du gouvernement. Que le gouvernement soit d'accord ou pas, il y aura une fête populaire pour, lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo.
Alors, dans l'état actuel des choses, le gouvernement ne nous a même pas encore signifié qu'il émettait quelques restrictions sur le format de l'accueil. Il y a un groupe politique, quelques personnes politiques, d'ailleurs, dont les choses ont évolué. J'avoue que les positions ont largement évolué. Au début, ils parlaient de retours discrets, mais de plus en plus, ils parlent plutôt de discipliner, de retours disciplinés organisés. Donc, les choses évoluent. Mais nous, notre position est simple sur la question. L'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément important dans le cadre du processus de réconciliation. Il ne faut pas créer des ressentiments ajoutés à d'autres ressentiments. Bloquer, empêcher les populations qui envisagent, qui sont soulagées. Et quand je l'ai dit, ce n'est pas seulement des pro-Gbagbo ou des pro-Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire qui est soulagée de savoir que finalement, il y a une opportunité de réconciliation. Donc vous ne pouvez pas empêcher ces personnes de dire « ne faites pas de fête, ne faites pas de mouvement ». Cela n'est pas possible parce que la nature de l'événement est telle que cette nature impose donc le format de l'accueil. Donc, ce n'est
oui, monsieur Cassino, ce sont les arguments que vous mettez dans la balance pour justifier le fait qu'il faut que l'ancien président rentre pas de façon discrète. Et vous affirmez que la position du gouvernement a évolué, mais manifestement n'a pas changé. Et si jamais la position était celle de dire qu'il y aura un retour discret, est-ce que vous maintiendriez le retour populaire, même sans l'aval du pouvoir ivoirien?
Alors, je voudrais vous rappeler quelque chose. Je suis très attention au terme que j'emploie. J'ai dit jusqu'à ce jour, le gouvernement ivoirien ne nous a pas, avec qui nous discutons de ce retour, ne nous a pas encore signifié qu'il mettait quelques restrictions sur le retour.
Et si c'était le cas, aujourd'hui ou demain?
Madame, allons-y doucement. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai dit que le truc évoluait. Non, le gouvernement, jusque-là, nous a pas encore émis une idée. C'est quelques personnes d'un groupement politique, le RHDP, même si c'est lui qui est au pouvoir, mais nous discutons avec le gouvernement, pas avec le RHDP. Et c'est pourquoi j'ai dit, même la position du RHDP a évolué. Maintenant, avec ce que vous êtes en train de dire, est-ce que le gouvernement... Nous aviserons. J'ai pas envie de faire des prédictions, j'ai pas envie de paraître comme un jeteur de scories, j'ai pas envie de discuter des choses qui ne sont pas encore arrivées. Merci. Mais pour le moment, je vous dis qu'à ce jour où je vous parle, le gouvernement ne nous a pas encore expressément signifié qu'ils entendaient...
Son opposition à une fête populaire.
Mais, alors, toujours est-il qu'à Abidjan, on entend quand même des craintes émises à cause d'éventuels débordements, même si ce n'est pas du côté du RHDP. Qu'est-ce qu'au sein du FPI, vous avez prévu pour contenir ces éventuels débordements, M. Katina?
Madame, chez nous, une manifestation populaire ne peut pas déborder. Une manifestation populaire, je ne vois pas en quoi elle pourrait déborder. C'est quand il y a des provocations ou des ressentiments qu'une manifestation déborde. Nous sommes en Afrique, et je le disais tantôt ce matin, parce que j'ai fait le tour des médias, qu'on a tellement importé nos institutions et notre mentalité, on l'a tellement importé de l'extérieur qu'on oublie un certain nombre de valeurs qui sont purement des valeurs africaines. En Afrique, une fête ne déborde pas. En Afrique, un tel événement, la joie n'entraîne pas de débordement, je dirais, dommageable à la cohésion sociale. Jamais. Jamais la voie n'entraîne. Donc voilà un peu cette valeur qu'il faut comprendre.
Merci beaucoup, M. Katina. On laisse le temps à nos confrères de réagir très rapidement, puisque la pause s'annonce déjà. On commence peut-être avec vous, Sidi Dao.
Je crois que je partage un peu l'avis du ministre, en tout cas, si la volonté y est, pour le retour de Gbagbo, quand même, il est nécessaire d'organiser cette fête. Et puis, ça ne déborde pas, sauf que s'il y a des provocations qui s'ajoutent à la masse, c'est ce qui entraîne généralement les débordements. Voilà, c'est ce que je voulais tout simplement dire.
Merci, Sidi. L'Aldjim Narcisse, depuis N'Djamena. Oui. Alors, vous avez entendu le ministre Katina qui rassure qu'il n'y aura pas de débordement, même si l'arrivée est célébrée dans une grande fête populaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je crois que le ministre a donné des assurances, il a donné des garanties. C'est bien s'ils arrivent à contenir
leurs militants qui seront certainement très nombreux à réserver un accueil de grand jour à M. Laurent Gbagbo, le leader du FPI. Il y a les partisans de Gbagbo qui disent souvent que le FPI gore. Donc, ceux-là, je pense qu'ils sont très nombreux à réserver un accueil au président Gbagbo. Gbagbo, c'est un général qui rentre. Donc, les troupes doivent être en ordre de bataille pour lui réserver un accueil. Alors, ce qu'on craint, c'est le débordement, parce que Laurent Gbagbo, c'est quand même l'une des figures emblématiques de l'opposition ivoirienne. C'est un monsieur qui a beaucoup fait par rapport au processus démocratique en Côte d'Ivoire. Donc je pense que par rapport à ce que le ministre a dit, si des dispositions ont été prises pour canaliser les militants, pour éviter tout débordement, ça serait une très bonne chose. Merci. Mais au cas où il y a eu débordement, ça ne serait pas du tout bien. Pour certains, il faut que Laurent Gbagbo rentre de manière sobre. Mais je pense que Gbagbo, c'est quand même un grand leader qui est absent pendant plus de 10 ans du pays et qui rentre parce qu'on l'a accusé de crimes contre l'humanité, etc. Mais la justice internationale l'a acquitté. Gbagbo a gagné. C'est une victoire de la vérité sur le mensonge. Et que...
Oui, merci beaucoup, Narcisse. On va devoir peut-être poursuivre rapidement avec notre invité et avant de la pause. Monsieur Katinon, est-ce que les engagements pris par le président ivoirien ont été actés? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Parce que c'est ce que souhaitaient certains membres de votre parti.
Mettez les engagements, par exemple, madame.
Notamment les avantages liés à son statut d'ancien chef d'État.
Alors, sur ce point, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas là aussi de libéralité ou alors d'une volonté unilatérale du chef de l'État. Il s'agit d'une loi qui a été votée en 2005, au moment où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et que l'actuel chef de l'État était ancien premier ministre en exil et le président Henri Konadjé, ancien président, était en exil. C'est cette loi que le président Gbagbo a fait passer devant l'Assemblée qui leur a permis à eux, à la fois au président Ouattara et au président Henri Konadjé, de bénéficier l'un du statut d'ancien chef de l'État, de l'autre du statut d'ancien ministre. Il s'agit donc d'une loi. Donc ce n'est pas un engagement unilatéral qui a besoin d'être écrit nouvellement. Il s'agit d'une loi qui doit s'appliquer et une loi, elle est générale, elle est impersonnelle, donc elle s'applique automatiquement.
Monsieur Katina,
elle a déjà été appliquée avant.
Toutes nos excuses, vous n'avez pas répondu clairement à la question de Liliane, vu qu'il y a eu des négociations, il y a eu des tractations pour que ce statut d'ancien chef de l'État et les engagements pris soient actés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est effectif?
Non, ce que je vous dis, il n'y a pas de négociation sur ça. Il n'y a pas de négociation sur les droits. Le droit, on ne négocie pas avec. C'est une loi. Le président Laurent Gbagbo a été président de la République du Côte d'Ivoire de 2000 à 2000. Ça, c'est un fait historique. Ça, et ce qui est lié.
Donc, ça veut dire que d'autres points en dehors de celui-là ont fait l'objet d'un engagement écrit de la part du pouvoir ivoirien, du président Ouattara.
C'est que nos négociations ont porté sur des questions d'ordre technique. Je vous donne un exemple. Le président Laurent Gbagbo, à ses comptes, était gelé. Vous convenez que dans le cadre de ce processus, on ne peut pas demander à la personne qui rentre d'exil à la suite d'une situation, en tant qu'il rentre d'une procédure pour laquelle il a été acquitté, que les comptes continuaient de geler, alors que les comptes avaient été gelés par rapport à ça. Et donc ça, ce sont des questions d'ordre technique qui sont liées au dégel de son compte, au choix des hommes qui vont faire sa sécurité, au choix des véhicules. Ça, c'est des questions d'ordre technique. Je pense que très souvent, quand les gens abordent cette question, ils oublient, ils font la confusion entre ces éléments qui relèvent de l'ordre des questions d'ordre technique et de ce qui relève de la loi.
Merci,
et une disposition de la loi, elle ne se négocie pas.
Merci beaucoup. On va marquer une pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et votre émission se poursuit avec notre grand témoin, Justin Koné-Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo, ainsi qu'avec nos deux confrères, Sidi Dao, rédacteur en chef du site malien Jalon.com à Bamako, et Ladjim Narcisse Bainadi, journaliste à Electron TV à N'Djamena, au Tchad. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et venir partager avec nous vos avis sur facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, nous allons encore parler de la Côte d'Ivoire avec le débat sur le retour de Laurent Gbagbo. Encore quelques minutes avec notre invité.
Avec notre invité, Monsieur Katina. Alors, Monsieur Katina, dans quelle posture est-ce que l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, rentre? On a entendu cette semaine des pontes du RHDP, le parti au pouvoir, qui disent qu'à son arrivée, il devrait prononcer des paroles de repentance et demander pardon. Est-ce que c'est dans ce genre de posture que le président Gbagbo rentre?
Écoutez, le président Laurent Gbagbo rentre pour la réconciliation. Je suis rentré d'exil le 30 avril et en me confiant à la commission de la commission communication, il m'a dit je rentre pour participer à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est tout un programme. Et tout au programme, dedans, il y a plusieurs points. Vous savez, la question de la crise ivoirienne, comme je l'ai dit, il faut faire attention quand nous abordons cette question-là. Parce que lorsque nous parlons des choses qui ont entraîné la vie, qui ont coûté la vie à des personnes, il faut s'assurer que ce dont nous, quand nous parlons, que nos cœurs ne nous accusent pas nous-mêmes. Ce n'est pas de ceux qui parlent. Parce que le plus grand accusateur de chaque homme, c'est son cœur. Est-ce que ceux qui parlent, qui demandent à Gbagbo quand ils ont fait des repentances, eux-mêmes, on lui a fait un discours de repentance? C'est la grande question fondamentale. C'est pourquoi je dis, faisons très attention à ce que nous disons. La Côte d'Ivoire a connu un drame. Et ce drame, un mort de plus. Vraiment, en Afrique, nous vulgarisons les morts. Mais un mort dans une crise politique est un mort de trop. Alors, lorsque nous abordons cette question, nous devons le faire sans passion. Le président Laurent Gbagbo vient sans passion. Il vient avec l'esprit de réconciliation qui n'est pas nouveau en lui. On l'oublie très souvent. Que lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, dans des conditions difficiles, il a été le premier à organiser un forum de réconciliation qui a donné la parole à tous les Ivoiriens en direct à la télévision ivoirienne. Et c'était la première fois que des citoyens pouvaient venir parler d'un chef de l'État avec autant de choses.
D'accord. Donc vous dites qu'il vient avec l'esprit de réconciliation. Et toujours une question encore sur son avenir. Est-il exact, M. Katinan, qu'il s'est engagé à observer la stricte réserve et d'être en retrait du débat politique?
Ce n'est pas de Laurent Gbagbo, ce n'est pas possible. Ça, je vous le dis automatiquement, ce n'est pas vrai.
Donc, il va reprendre la direction de son parti, le FPI, et mener des activités politiques.
Et pour le moment, il vient avec le titre du président du FPI. Maintenant, qu'est-ce qu'il décida lorsqu'il arrive? Je vous ai dit qu'il a son processus de réconciliation. On ne peut pas faire un tel processus si on n'a pas une posture, dans une posture d'éloignement de la scène politique. Ce n'est pas possible. Le Laurent Gbagbo n'est ni imam, il n'est ni pasteur, il n'est ni prêtre, il est homme politique. Donc il arrive, et il y a une crise politique majeure en Côte d'Ivoire. C'est donc avec ce manteau-là qu'il est capable d'apporter sa part dans la reconstruction morale. Maintenant, quelle sera cette part? C'est lui qui la déterminera, c'est lui qui nous donnera, mais il n'est pas possible de demander dans le président Laurent Gbagbo, en même temps qu'on lui demande d'être un acteur important de la réconciliation, de ne pas revenir sur la scène politique. Voilà, ce n'est pas possible. Les deux demandes me semblent inconciliables.
Alors, peut-être une dernière question de mon côté. Au plan interne, M. Katina, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo signifie automatiquement la réconciliation au sein du FPI? On sait que votre parti est très divisé en son sein. Et comment est-ce qu'il va manœuvrer pour réconcilier le FPI?
Écoutez, je peux vous rassurer d'une chose. Je sais que de part et d'autre, des deux branches, tous nous reconnaissons le président Laurent Gbagbo comme étant le chef, notre leader. À partir de cet instant, pour nous, son retour constitue une nouvelle espérance pour nous, unité pour nous. Puisque les deux tentes se reconnaissent toutes en lui. Et cela me paraît important. Et je suis convaincu d'une chose. C'est comme dans une famille. Lorsque le père de famille est enlevé, n'est plus là, il y a forcément quelques désordres dans la famille. Moi, je viens d'exil, j'apprends à vivre avec ma famille. 10 ans, ma famille n'était pas avec moi. Mais j'essaie de remettre de l'ordre dans la famille. Et évidemment, il y avait quelques petits enfants, quelques rébellions internes dans la famille. Mais quand le chef arrive, forcément, ces rébellions s'éteignent. Donc, rassurez-vous que pour nous, la République du président Laurent Gbagbo devait accélérer le processus de réunification de son parti.
Et sur cette inquiétude relative à la condamnation de l'ancien président Gbagbo à 20 ans de prison pour l'affaire de la casse de la BCAO, vous aviez déclaré, M. Katinon, que c'est une condamnation politique qui se réglera de façon politique. Qu'est-ce que cela signifie, clairement?
Alors, vous ne pouvez pas imaginer que la Côte d'Ivoire qui court derrière la réconciliation depuis 10 ans et que tout le monde appelle de tout son vœu. Les Ivoiriens appellent ça, la nation appelle, tous nos partenaires économiques, tout le monde attend de la Côte d'Ivoire un geste de réconciliation, la réconciliation. Un pays phare, un pays important. Vous imaginez un seul instant que ce processus qui est engagé et qui va être boosté avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo puisse être bloqué parce qu'on aurait arrêté le président Laurent Gbagbo pour l'envoyer pour une question qui relève purement de la politique. Non, la façon dont nous estimons que cette condamnation est politique, la solution se trouve dans le...
C'est-à-dire, oui, justement, vous l'avez dit et redit, quand vous dites solution politique, de manière claire, qu'est-ce que vous souhaitez? Que le président Alassane Ouattara, tout de suite, même avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, décide d'une grâce en sa faveur?
Nous n'avons même pas posé... Si nous n'en parlons pas, pour nous, c'est que ce n'est pas un problème. Nous n'en parlons même pas. Vous avez vu que dans nos demandes, on n'en parle pas. Parce que pour nous, là, nous savons que de façon évidente, ça va se régler politiquement. Donc c'est pourquoi il y a tellement de priorités.
Il y a l'association des victimes qui est dans une...
Alors, madame, là, justement, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Non, madame, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. La BCAO appartient à des États. La BCAO n'appartient pas à des personnes privées. Donc quand on me dit que j'ai cassé la BCAO, je ne vois pas qui est victime de la BCAO pour demander qu'on m'arrête. La BCAO, c'est elle qui est la victime. Or, la BCAO, dans ce procès, ne s'est pas constituée partie civile. Donc, il n'y a pas de victime en dehors de la BCAO. Donc, quelqu'un qui s'élève, qui n'est pas la BCAO, et qui dit qu'il est victime, et qui voudrait qu'on applique une décision de justice dont il n'a aucun intérêt direct, il fait de la manipulation politique. Et ça,
oui,
là,
monsieur Katsidon, pour vous, vous n'avez aucune inquiétude que le président Ouattara ne décide pas de cette grâce maintenant. Cela ne vous pose aucun problème parce qu'il y a d'autres Ivoiriens qui estiment et qui pensent même que cette condamnation est aussi une sorte d'assurance vie ou une arme pour le président, que le président Ouattara se réserve d'utiliser en cas de non-respect par M. Gbagbo de certaines exigences de sa part.
Madame, je vous ai dit, quand vous le dites, c'est que vous-même, vous reconnaissez qu'il s'agit d'une affaire politique. Parce que si un homme politique dit « je prends une décision judiciaire pour en faire une arme politique », c'est pourquoi je vous dis que politiquement, ça va se régler. Et comme je sais que politiquement, ça va se régler, je ne me fais pas d'inquiétude. Et Merci. Je ne crois pas que le président Gbagbo ne s'en fait pas une inquiétude. Sinon, en tout cas, il n'aurait pas demandé que je rentre le 17. Il aurait demandé « je rentrerai quand on va faire la grâce » ou « je rentrerai quand on va faire l'amnistie ». Or, il a dit « il rentre le 17 ». Si lui, qui est le premier intéressé, dit « je n'en fais pas une inquiétude », mais pourquoi les autres s'en inquiètent?
Merci.
Je vous dis que c'est une position politique, vous-même vous la reconnaissez, quand vous qualifiez tout ça d'une arme que le président Ouattara voudrait utiliser à un moment donné, mais nous aussi... Nous
ça, c'est ce que prétendent certains Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis, M. Katinon. Merci beaucoup, on passe au prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et avec notre grand témoin Justin Koné Katinon, porte-parole de Laurent Gbagbo, et nos confrères Ladjim Narcisse Bainadji, journaliste à Electron TV en N'Djamena, Sidi Dao, rédacteur en chef du site malien Jalon.com à Bamako. Et nous allons parler à présent d'un autre sujet de l'actualité. La France a annoncé la suspension de ses opérations militaires conjointes avec les FAMA, les forces armées du Mali. La décision intervient dans la la foulée de la mise à l'écart ponctuelle de ce pays par la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, suspension consécutive au coup d'État de mai dernier du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, contre le président de la transition, Bandao, et le premier ministre Moctawan. Arrêtés puis séquestrés dans un camp militaire, ils ont été forcés à démissionner. Le colonel Assimi Goïta a ensuite été déclaré président par la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, il sera investi lundi prochain, 7 juin, devant la Cour suprême. Pour ce qui est, je vais commencer évidemment avec notre confrère qui est au Mali. Pour ce qui est de la suspension du Mali par la CEDEAO et l'Union africaine, il n'y a pas d'impact sur la situation économique ni sur les flux financiers. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Boubacar Gouro Dial, le secrétaire général du ministère malien des Affaires étrangères. Alors qu'en est-il de la suspension par la France de toutes ces opérations militaires conjointes avec le Mali, Sidi?
Bon, je crois que la France a prononcé cette situation hier, avant-hier, que les gens ont appris la nouvelle. Bon, c'était très surprenant pour plein de Maliens parce qu'il a fallu attendre d'abord la décision de l'UIA, et de la CEDEAO, qui a annoncé la suspension du Mali. En tout cas, pour nombre de Maliens, on pensait que cette suspension annoncé de la CEDEAO était suffisant pour la France d'attendre que les choses se clarifient. Parce qu'en réalité, la suspension de la coopération dans ce contexte-là est une décision purement qui s'aligne derrière celle de la CEDEAO. Et alors, je pense que la CEDEAO sur la ligne d'un ajustement.
Mais est-ce que ça suscite des inquiétudes au Mali et quelles peuvent être les conséquences de cette suspension des opérations conjointes sur la réponse malienne face à ces groupes djihadistes dans votre pays?
Bon, en réalité, ça l'impact, les gens sont inquiets de la sécurité parce que pour rappel, il faut savoir quand même que la situation sécuritaire est très préoccupante actuellement au Mali. Les gens sont inquiets et à juste raison parce que la situation sécuritaire dans le pays est très se dégrade de jour en jour. Il disait qu'il est très difficile aujourd'hui de quitter une ville pour une autre sans l'inquiétude. Et c'est là l'inquiétude. Bon, et pour ceux qui connaissent l'appui français, c'est un peu un appui pour certaines opérations militaires et un appui pour
indispensable.
Oui. Bon, vous pourrez le dire, mais je sais qu'il y a les hommes qui sont sur le terrain, c'est à eux de juger si c'est indispensable ou pas. Moi, je ne saurais le dire. De toutes les façons, nous, on juge que c'est important, cet appui, parce que depuis 2013, je pense qu'ils sont en train d'apporter cet appui aux femmes.
Alors, Sidi, vous parlez d'inquiétude du côté de la population. Est-ce que cette inquiétude pourrait aller jusqu'à une certaine pression sur le président de la transition, Assimi Goïta?
Non, je ne pense pas, parce qu'à l'heure actuelle, je pense que la population malienne, on peut le diviser, par exemple, en deux. Il y en a qui soutiennent le pouvoir, ils le soutiennent ouvertement. Il y en a qui observent la situation. Et bon, il y en a qui le désiraient, qui sont un peu opposés. Mais ceux-là qui sont opposés, en tout cas, ne se font pas entendre. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, les gens sont avec soutiennent pour une grande majorité les militaires au pouvoir.
Vous parliez de la réaction de la classe politique et les militaires eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont dit
par rapport
à cette suspension par la France?
Bon, les militaires, du moins officiellement, ne disent rien pour le moment. Je pense que ils ont leur stratégie, mais officiellement, réaliser l'essentiel.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation importante aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité, c'est la paix. Et vraiment, on convient tous qu'on a besoin de paix, de sécurité.
Merci beaucoup, Sidi. Merci, Sidi. Oui. Nous allons prendre l'avis de notre grand témoin, M. Justin Kone-Katina, sur la suspension par la France de sa participation aux opérations militaires au Mali. Est-ce que, selon vous, c'est une réaction démesurée?
Oui, je pense qu'elle est allée un peu trop loin. Nos amis français sont allés un peu trop loin parce que je ne crois pas que ce soit la meilleure solution pour régler le problème du Mali. La crise du Mali est née justement d'une crise sécuritaire. C'est le doute, c'est l'incertitude sécuritaire qui a envoyé la crise du Mali. Alors, vous ne pouvez pas régler un problème de ce genre-là en accentuant l'insécurité. Donc, pour nous, cette position me paraît assez excessive. La France aurait dû attendre. Parce que, de toute façon, une telle décision, l'impact, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir que cela impacte. Cela impacte toute la société malienne. Et c'est là pour la question des sanctions d'ordre général. Quand les décisions sont prises et que les effets s'étendent à toute une population indifférenciée, mais finalement, on se demande pourquoi on a pris une telle décision. À mon avis, elle me paraît excessive.
Merci, M. Katina. L'Aldim Narcisse, votre commentaire sur ces multiples suspensions, du Mali, de certaines organisations, mais aussi de la réaction de la France.
Ben, je crois que moi, je ne suis pas surpris par rapport à la réaction de la France. La France met à exécution les menaces qu'elle a proférées lors de la rencontre avec les chefs d'État du G5 Sahel à Pau il y a un an et demi. Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait un sentiment anti-français qui se développait et la France n'était pas du tout d'accord et a convié les chefs d'État, si vous ne voulez pas, nous allons retirer nos troupes. Donc, je pense que la France a un peu voulu passer. Et la France, d'après plusieurs informations recoupées, c'est que la France n'est pas contente de la junte militaire qui voulait... Il y a un accord de partenariat avec les Russes. Vous savez, la France a déjà perdu la main en quelque sorte en République centrafricaine. Donc je crois que c'est un choc pour la France et la France a pris cette décision de manière unilatérale et c'est grave quand même pour la sécurité dans la zone sahélienne.
Merci l'Aldim. Liliane, peut-être revenir à Sidi pour clôturer deuxième sujet.
Voilà, j'étais pour Sidi. Pardon, Sidi.
Oui.
Alors est-ce que l'ombre, le confort du Mali, du Tchad, pardon, l'Adim parlait de la France qui a déjà perdu la main en Centrafrique, est-ce qu'on dirait que l'ombre de la Russie plane également sur cette crise au Mali entre Paris et Bamako?
Oui, effectivement, possibilité de relation entre Bamako et Moscou, ça animé les infos ces derniers jours. Je me rappelle que la semaine dernière, je crois, il y a des manifestants qui sont allés jusqu'à l'ambassade de la Russie pour demander l'appui de ce pays au Mali parce qu'ils jugent que ce que la France fait est très insuffisant parce que de 2013 à aujourd'hui, l'insécurité ne fait que grandir. Et avec ses conséquences.
Donc peut-être les succès de la Russie en Syrie et maintenant aussi un peu en Centrafrique sont peut-être passés par là?
Bon, en fait, je ne dirais pas ainsi. Je pense que d'une manière générale, le Malien en a assez de cette insécurité. Et on pense que avec d'autres partenaires que la France, on pourrait trouver rapidement une solution à cette crise.
Monsieur le ministre, vraiment en quelques mots, Monsieur Kone, est-ce qu'on peut imaginer une situation où la suspension de la France soit finalement peut-être une occasion pour la Russie de reprendre la place de la France?
En quelques mots, pour vous dire, je vais même généraliser la question de façon simple. Ce qui se passe au Mali est déjà ce que nous prévoyons, je l'ai écrit dans l'un de mes livres, que la Côte de l'Afrique va devenir bientôt le champ de confrontation des intérêts des puissances étrangères si l'Afrique refuse de prendre elle-même ses responsabilités. Et c'est ce qui se passe exactement au Mali, c'est ce qui se passe en Centrafrique, ainsi de suite. Parce que dans la réalité, quand l'armée française intervient, elle n'intervient pas de façon bénévole. Et à la France, il y a un intérêt diplomatique, économique, et ainsi de suite.
La Russie non plus, M. Koné Katina.
Oui.
Aucune grande puissance ne fait de la charité.
Exactement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si l'Afrique refuse effectivement de s'assumer pleinement, je suis quand même surpris que 12 les pays de la CEDEAO voient la question du Mali comme si c'était loin de leur porte. Pourtant, le Sahel, c'est une moitié de la CEDEAO. Nous agissons comme si c'était très loin, que les champs étaient très loin de nos portes, ce qui n'est pas vrai du tout. Je suis surpris que nous ne soyons pas capables de monter nous-mêmes une force capable de gérer ces questions-là. Ben, tant que nous resterons dans cette position, ben nous serons les victimes des conflits d'intérêts entre les puissances, parce que, comme vous le dites bien, aucune puissance ne vient tout simplement faire de la charia.
De la charité.
Enfin, je vais dire de la charité, excuse-moi ma question. Voilà.
D'accord. Saint-Tiche, on va passer au prochain sujet avec vous, le Tchad bien-aimé.
Rapidement et en quelques minutes. Alors, en semaine, les relations tchado-centrafricaines ont été mises à mal après la mort dimanche de 6 soldats tchadiens dans une localité frontalière entre les deux pays voisins. N'Djamena a clairement accusé les forces de sécurité centrafricaines d'avoir attaqué un poste frontalier tenu par des soldats tchadiens, d'avoir tué un sur place, enlevé et exécuté en territoire centrafricain 5 autres soldats selon les autorités tchadiennes. Bangui a aussitôt répliqué, déplorant un incident survenu alors que les FACA, les forces des armées centrafricaines, poursuivaient en fait des éléments rebelles. C'est la version de Bangui. Une forte délégation fait le déplacement à N'Djamena et à l'issue, les deux gouvernements déclarent s'être entendus sur la mise en place d'une commission d'enquête internationale et impartiale constituée de l'ONU, de l'UA, de la CEAC pour faire la lumière sur les faits. L'Aldim Narcisse, journaliste, analyste politique à Electron TV à N'Djamena, dit: alors, malgré l'issue diplomatique, Narcisse, trouvée à l'issue de la visite de la délégation centrafricaine, on entend quand même que le Tchad a envoyé des renforts militaires à sa frontière avec la Centrafrique. Comment les autorités tchadiennes expliquent ce fait?
Bon, c'est vrai que le gouvernement centrafricain avait envoyé une délégation qui a été reçue par le président du Conseil militaire de transition et une commission à travailler, etc. Mais le gouvernement tchadien continue à renforcer son dispositif au niveau du Levant oriental, surtout à la frontière tchado-centrafricaine. Donc,
c'est en prévision ou en représailles de... Qu'est-ce qui a été dit par le gouvernement tchadien à ce propos?
Ben, le gouvernement tchadien avait qualifié ça de crime de guerre et d'une agression meurtrière, planifiée, etc. Donc, par rapport à ça, le gouvernement tchadien a pris des dispositions et a demandé que ce crime ne restera pas impuni. C'est ça qui avait un peu... c'est ça qui a obligé certains pays à intervenir pour apaiser un peu la tension entre les deux parties. Ben, il faut rappeler que depuis les années 2010, les relations entre le Tchad et la République centrafricaine évolue en dents de scie. Parce qu'à l'époque, le président tchadien avait aidé le président Félix Patassé à rétablir l'ordre lorsqu'il y avait eu plusieurs mutineries dans le pays. Ensuite, il y a eu de bruit entre le président Déby et Patassé, et quand Bozizé est arrivé...
Oui, il y a une longue histoire politique. On ne pourra pas tout relayer ici. Alors, Laldim, est-ce qu'on sait quand est-ce que cette commission d'enquête internationale devrait se mettre en place? Est-ce qu'il y a eu plus de précisions à ce propos?
Ben, on dit que c'est dans un bref délai que cette commission sera mise sur pied et diligentera une enquête pour situer les responsabilités. Parce que le gouvernement tchadien est sous le choc et menace la République centrafricaine de représailles. Donc, je pense que dans un délai raisonnable, cette commission fera le travail pour dépister le climat tendu entre les deux pays qui appartiennent à
à la CEAC. Et justement, à ce sujet, Narcisse, juste préciser que vendredi, au moment où nous enregistrons un sommet extraordinaire de la CEAC qui réunit les pays d'Afrique centrale, se tient à Brazzaville en l'absence du président de transition tchadien qui a envoyé son premier ministre Albert Paimi Padake. On attend donc les conclusions de ce sommet extraordinaire qui devrait normalement discuter de cette commission d'enquête dont vous parliez à l'instant. Est-ce qu'avant le soutien russe au FACA, l'armée centrafricaine aurait tenté de pénétrer en territoire tchadien pour y pourchasser les rebelles?
Non, l'armée centrafricaine ne le fera pas. Ne le fera pas, à mon avis, parce que l'armée centrafricaine a été toujours aidée à l'époque par l'armée tchadienne à contenir les mutineries et autres qui ont eu lieu dans le pays.
Donc vous pensez qu'avec la présence russe, ça donne des ailes un peu à la Centrafrique?
Ben justement, aujourd'hui, l'armée centrafricaine bombe le torse parce qu'elle a l'appui des paramilitaires russes, elle a également l'appui des troupes d'élite rwandaises. C'est pourquoi elle a... D'ailleurs, l'ambassadeur de la Russie avait même dit il y a quelques mois, et cela avait provoqué même l'ire du gouvernement tchadien qui avait rendu public un communiqué. L'ambassadeur russe en République centrafricaine avait dit que ils vont poursuivre les rebelles au-delà des frontières, même à l'intérieur du territoire tchadien pour les écraser. Donc cela avait provoqué la colère du gouvernement tchadien à l'époque, donc parce que cette armée est soutenue par les paramilitaires russes, par les troupes d'élite rwandaises, donc elle a osé franchir la frontière et c'est ça qui a choqué le gouvernement tchadien. Le gouvernement tchadien pense que c'est de la provocation et il faut répondre au coup par coup.
Merci. Alors, merci l'Algérie. Monsieur Katina, vous...
Oui.
Monsieur Katina, alors votre réaction sur déjà sur la rapidité avec laquelle Bangui a essayé de rattraper le coup, on va dire comme ça, en déléguant cette forte délégation à N'Djamena, est-ce que cette réaction est de nature à apaiser réellement la tension et peut-être à laisser voir une sortie plus paisible après cet incident?
Oui, je pense que c'est une bonne sagesse qu'ils aient anticipé, qu'ils aient pris le pas sur les événements, parce qu'il s'agit d'une zone qui est en turbulence, avec le décès tragique du président tchadien et la façon dont la transition a été gérée en dissolvant les structures de l'État et ça crée un problème particulier dans une zone déjà difficile. Il est bon que ceux qui dirigent aujourd'hui ces zones soient très alertes sur ces questions, notamment les questions frontalières.
Si on évoque le fait que le Tchad et la Centrafrique sont pris dans une guerre de positionnement ou d'influence entre la France et la Russie, est-ce que réellement ces deux États de l'Afrique centrale ont des, on va dire, une marge de manœuvre, selon vous?
Oui, mais justement, c'est ce que nous dénoncions. De façon évidente, nous avons vu comment la France s'est imposée dans le système de transition après le décès de
Maréchal Idriss Déby.
Voilà, Idriss Déby. Donc, c'est-à-dire la France prend conscience qu'elle ne veut pas perdre pied dans cette région. Donc, le Tchad devient un espace stratégique pour la France. De l'autre côté, la Russie, qui commence à prendre de l'ampleur au niveau de la Centrafrique. Et ça veut dire que, c'est-à-dire que corroborer ce que je viens de dire tout à l'heure, que si nous ne faisons pas attention, si l'Afrique ne fait pas attention, nous allons, ce schéma va se multiplier à l'inverse. C'est-à-dire que nous, chacun ira se trouver un tuteur étranger et vouloir se mettre devant un tuteur étranger. Et comme je dis, il n'y a jamais de tuteur étranger sans intérêt.
Sans contrepartie. Parlons justement de tuteur. En quelques mots, Nadim, Sidi n'aura pas le temps de s'exprimer sur le sujet. Alors, Nadim, la France soutient, on le sait, d'autres estiment de façon aveugle le pouvoir tchadien. Les Russes font autant pour celui centrafricain. Les rivalités entre les deux puissances sont évidentes. Est-ce que de nouveaux accrochages ne vont pas avoir lieu? Est-ce qu'on ne peut pas craindre de nouveaux accrochages à l'avenir?
c'est pas écarté puisque le CERF continue à renforcer son dispositif au niveau des frontières, comme je l'avais dit. Et la France a condamné cette attaque, etc. Et je crois que le gouvernement français a été toujours accusé d'utiliser les Tchadiens pour renverser une situation en République centrafricaine. Donc aujourd'hui, tout le monde dit que c'est une guerre géostratégique, et la guerre entre la France et la Russie, parce que là, la dernière fois, lorsque les rebelles avaient tenté de renverser le régime centrafricain, la République centrafricaine a pointé un doigt accusateur sur le Tchad pour dire que ce sont les éléments tchadiens. Mais à l'époque, le gouvernement a porté un démenti formel pour dire que non, nous n'avons pas envoyé des mercenaires, mais ce sont des Tchadiens d'origine centrafricaine qui ont participé à ce malheureux coup de force, etc. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que la France a perdu le pied au niveau de la République centrafricaine et qu'elle fait tout de tout bois pour retrouver sa place.
Un leadership en Afrique centrale. Merci beaucoup, Ladim. On va à présent écouter les réactions et questions de nos auditeurs sur Facebook avec Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tich, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Aubin Alafame estime que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est une bonne nouvelle pour ses partisans et pour le processus de réconciliation nationale dans le pays. Charles Bazema lui se demande pourquoi il y a tant de tapage autour du retour du président Gbagbo et la posture que ce dernier adoptera une fois dans son pays. Imran Diallo lui demande à notre grand témoin s'il croit en la sincérité du régime actuel pour la sécurité du président Gbagbo. Mali Touré Mamadou Yaya estime que le nouveau chef de la transition, Assimi Goïta, doit consulter tous les partis politiques maliens pour trouver une solution rapide et fiable afin de sortir le pays de l'impasse et des sanctions afin d'éviter le pire. Incident entre l'armée centrafricaine et tchadienne, archiduc Théodore de N'Djamena estime que les deux pays feraient mieux de s'asseoir autour d'une table de négociation afin de trouver un consensus. Merci à nos internautes pour leur fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debatbbcafrique-africaradio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end Didier Ladislas Lando. En 30 secondes, Monsieur Katinon, pour conclure et en répondant à la question de cet auditeur, croyez-vous à la sincérité du pouvoir ivoirien pour garantir la sécurité de Monsieur Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire?
Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité du gouvernement ivoirien parce que de toutes les façons, connaissant le président Laurent Gbagbo, après avoir été lui-même chef de l'État, je ne vois pas où il trouverait les forces pour venir assurer sa sécurité. Il est rattaché véritablement à l'ordre étatique. Et donc, pour cette base-là, nous faisons totalement confiance au gouvernement ivoirien. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions des partenaires dans ce processus. La Côte d'Ivoire a besoin de se parler. Nous avons besoin de nous parler, de pouvoir soigner nos plaies. Et en Afrique, le seul moyen, le seul remède, c'est le verbe. Le verbe soigne beaucoup en Afrique.
Merci.
Nous avons tendance à l'oublier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Justin Koné Katinon. Vous étiez notre grand témoin cette semaine, porte-parole de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Et nous avions également dans cette émission deux journalistes, Ladim Narcisse Bainadi, journaliste à Electron TV à N'Djamena au Tchad, et Sidi Dao, rédacteur en chef du site malien Jalon.com à Bamako. Réalisation de cette émission à Dakar, Abdou Diop à Paris, à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Votre émission est à écouter ou réécouter quand vous le souhaiteriez sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et faites-nous part de vos avis sur la page Facebook, facebook.com/debatbbcafricaradio. Saint-Tich Mantar-Tomté, je vous souhaite un excellent week-end. Et
bonne semaine à vous, Liliane Yatcha.
Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.